Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Faut-il le dire ? La rubrique de Pierre Bénard sur la langue française.
Les discours dont nous sommes abreuvés, fatigués, nous offrent, comme pour nous tirer de la léthargie où ils nous plongent, de jolis barbarismes, dont deux, particulièrement, auxquels il me plairait de faire un sort ici. J'entends par barbarisme la formation, par déformation de mots existants, de vocables qui sont des monstres lexicaux, ou bien l'emploi de termes qui, tout en existant, sont pris dans un sens qui n'est pas leur sens d'usage. À cette catégorie, les mots employés hors de leur usage normal se rattachent une faute que l'on surprend souvent. Je pense à circonvolution dans le sens de propos embarrassés, de langage indirect, imprécis, volontairement entortillé, de manière de tourner dans les formules que l'on emploie autour de la chose à exprimer au lieu, si je puis dire, d'y aller carrément. Sens qui évoque celui de périphrase, même si toute circonlocution n'est pas une périphrase. Circonvolution au lieu de circonlocution. On distingue bien qu'il s'agit d'une confusion. Confusion causée par une ressemblance, ce que les savants nomment une paronymie, source ordinaire de barbarisme. C'est la paronymie qui amène à dire gradation pour graduation, collision pour collusion, à dire, voulant parler d'une simple supposition, cela n'est qu'une conjoncture, là où il faudrait, cela n'est qu'une conjecture. Circonvolution et circonlocution se ressemblent. Même nombre de syllabes, même préfixe, même terminaison, même séquence vocalique, et je ne parle pas de la proximité de sens. Mais tout de même, une circonvolution, c'est une forme, une figure, celle par exemple d'un ressort de traction ou de compression. Ce sont des tours décrits autour d'un même centre. Pour fixer les idées, j'emprunterai à Littré l'exemple qu'il nous propose. Les plaques de bronze font des circonvolutions autour du fût de la colonne de la place Vendôme. On parle spécialement de circonvolution cérébrale, et d'autres emplois peuvent être notés en anatomie comme en architecture comme en musique. Mais si je veux faire entendre que quelqu'un s'exprime délibérément d'une manière embrouillée, complique à dessein son langage, qu'il dit sans dire vraiment, par crainte de la franchise, de l'idée crue et nue, ou par souci de plaire en faisant de belles phrases. C'est de circonlocution qu'il faut parler, de circonlocution et non de circonvolution. Pourquoi pas à ce compte employer circonvallation ? Les circonvallations, ce sont les lignes fortifiées, les tranchées établies autour d'une place que l'on assiège pour se garder des assauts éventuels d'une armée de secours nous attaquant dans le dos. Circonlocution, vous dis-je. Ni circonvolution, laissez-les au cerveau et à la colonne Vendôme, ni circonvallation, laissez-les aux commentaires de César et à tous ceux qui écrivent de polyurcétique. Les poètes ridicules, dont se moque Molière, cultivaient la circonlocution. C'est contre leur tortillage, leur circonlocution, que s'emporte le bon Chrysal des femmes savantes. Quand il tonne à propos de Trissotin, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Je ne voudrais pas me noyer, et noyer ceux qui veulent bien m'écouter, dans circonlocution et circonvolution. Pourtant, à étudier les emplois du second, là où j'aurais attendu le premier, quelque chose m'apparaît que je voudrais expliquer. Si c'est toujours par confusion que, dans les cas auxquels je pense, on emploie circonvolution, il me semble que l'erreur n'est pas toujours complètement fausse, car ceux qui parlent de circonvolution en déformant circonlocution pensent parfois à autre chose qu'à des détours, à des biais de langage. C'est quelquefois à des complications, à des sinuosités de pensée qu'ils font référence, de sorte qu'ils créent en quelque sorte, à partir d'une confusion et d'une déformation initiale, un nouvel emploi de circonvolution qui sera peut-être un jour recueilli par les dictionnaires et d'abord par celui de l'Académie, dont le principe est d'enregistrer l'usage. Mais d'autres que moi, à ce moment-là, parleront de ces choses au micro de Canal Académie. Sur quoi je laisse ce point, ne voulant pas ressembler aux pédants et pédantes qui indisposent Chrysal et inspiraient Molière. Mais je disais en commençant qu'il est aussi des barbarismes de forme. Des mots qui n'existent nulle part, même dans les plus scrupuleux dictionnaires, des monstres lexicaux forgés d'après de vrais mots dont ils portent le sens sans porter exactement les syllabes. Un exemple qui revient souvent, c'est le charmant verbe « omnibuler » qui semble né du croisement d'omnibus et de déambuler et auquel on aurait envie, s'il existait encore des omnibus dans Paris, de prêter ce sens, justement, déambuler en omnibus. Mais, sous la plume et dans la bouche de ceux qui usent d'omnibuler, cette horreur prend la place de la forme obnubilée. Le pire est que ce verbe bien français, obnubilé, qui, dans le fil de ses origines latines, veut dire enveloppé, voilé comme d'un nuage, a pris, depuis longtemps déjà, par glissement de sens, par une extension qui tient du barbarisme, le sens d'obsédé. Double faute. Bah, me répondrez-vous, ainsi vont toutes choses, et ainsi va la langue. Ne laissez pas ainsi s'échauffer votre bile. Ne vous laissez donc pas ainsi obnubiler. Ne prenez pas la succession de Trissotin, de Philaminte et de Bélise. Je vous entends, mais je persiste. Veillons sur circonlocution et gardons-nous d'omnibuler.
Pierre Bénard est l'auteur de « C'est la cata », petit manuel du français maltraité, publié aux éditions Point dans la collection « Le goût des mots », dirigé par Philippe Delerme.